une belle personne rayonnante en vert aussi. Alors, c'est super d'être ensemble pour célébrer la naissance de Jésus. Alors, j'essayais de me demander aujourd'hui, c'était quoi mon premier souvenir de Noël? Puis je vous pose la question, c'est quoi votre premier souvenir de Noël? Si vous retournez de votre plus tendre jeunesse, de votre jeune âge, c'est quoi votre premier souvenir? Peut-être que c'est d'un bon repas ou d'une fête de famille chez grand-papa ou grand-maman, ou c'est d'avoir la table remplie de desserts. Peut-être que comme enfant, c'est ça qui vous a fasciné. Ou peut-être que c'était un peu plus triste. Peut-être que c'était des chicanes de famille. Peut-être que c'est le genre de choses qui peut arriver à Noël. Ou le fait que c'était plus solitaire ou que vous auriez aimé. Peut-être que c'est différent des autres enfants. Mais j'aimerais nous transporter aujourd'hui jusqu'au jour du premier Noël. Donc, peu importe nos premiers souvenirs de Noël, qu'est-ce qui s'est passé le premier Noël qui fait qu'on célèbre Noël aujourd'hui? Alors, ce n'est pas... Il y a 364 chances sur 365 que ce ne soit pas le 25 décembre précisément que Jésus soit né. On ne sait pas à quelle date il est né. On a décidé de cette date-là comme une occasion de célébrer la naissance de Jésus d'une façon spéciale. Tandis que Pâques, en fonction du cycle lunaire, ça, on le place pas mal plus dans la saison de l'année où Pâques aurait lieu, parce que selon le calendrier juif, c'était avec le calendrier lunaire, alors on sait que c'était dans le coin du printemps. Mais si le premier Noël, il y avait de la neige qui tombait à Bethléem, bon, probablement pas. Il n'y a pas beaucoup de neige à Bethléem ou en Israël. Ni on ne sait pas si c'était en hiver non plus. Mais le premier Noël, le jour où Jésus est né. Avant d'aller dans le texte le plus complet du Nouveau Testament qui nous parle de la naissance de Jésus dans Luc chapitre 2, j'aimerais faire une petite conclusion sur notre série de Noël qu'on avait commencé, Noël annoncé par les prophètes. Dans Matthieu chapitre 1 et 2, on avait regardé comment Matthieu présentait des éléments de la naissance, la petite enfance de Jésus et comment ces événements-là étaient en fait, chacun d'entre eux, l'accomplissement de ce que les prophètes avaient annoncé. On avait vu que le fait que la Vierge soit enceinte, qu'elle mette au monde un fils qu'on appellerait Emmanuel, c'était une prophétie d'Ésaïe. Le fait que le Messie naîtrait à Bethléem, c'était une prophétie de Michée. Ensuite, en Matthieu 2, 15, le fait que Jésus et ses parents ont dû s'enfuir en Égypte pour fuir Hérode, qui allait bientôt vouloir tuer tous les bébés qui pourraient peut-être prétendre à son trône. Ça disait que le fait que Jésus allait éventuellement sortir d'Égypte, ça serait l'accomplissement de la parole du prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Donc là, il était question non pas d'un enfant, mais il était question du peuple d'Israël. Donc, on voyait comment ce que Matthieu est en train de dire ici, c'est que Jésus était le nouveau fils, était le nouvel Israël. Il allait être l'Israël parfait, celui qui allait représenter le nouvel Israël, le nouveau peuple de Dieu, celui de tous ceux qui allaient se confier en Jésus, c'est-à-dire tous ceux qui constituent l'Église. La quatrième prophétie accomplie, Matthieu la mentionne dans Matthieu 2, 18, où on a entendu des cris à Rama, des pleurs, de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Rachel, Ovidio nous disait la semaine passée, en quelque sorte, c'est la mère du peuple d'Israël. Elle pleure ses enfants de la tribu de Benjamin. Dans le contexte de Jérémie, d'où sort cette citation-là, c'est les enfants, les gens qui se faisaient amener en exil. Mais ici, Matthieu le place dans le contexte où les bébés de Bethléem ont été mis à mort et que Rachel pleure pour ses enfants-là. Et la citation dans Jérémie, d'où Matthieu est allé tirer ça, en fait, tout ce chapitre-là, c'est un chapitre absolument merveilleux qui parle de la nouvelle alliance, de Dieu qui viendrait écrire sa loi dans nos cœurs. Alors, vous, peut-être que vous avez lu le Jérémie 31, je vous encourage à le faire si vous ne l'avez pas fait. Mais, et de la même façon que Moïse avait échappé à une tentative de tuer tous les bébés garçons et avait été celui que Dieu avait utilisé pour amener la première alliance, l'alliance de Moïse, eh bien, Jésus, lui aussi, avait échappé à la mort de près par une action miraculeuse de Dieu qui envoie son ange pour dire à Joseph de se retirer en Égypte. Et Jésus allait devenir l'inaugurateur d'une alliance bien meilleure que celle de Moïse. Ensuite vient notre cinquième et dernière citation des prophètes. Et je vous invite à lire avec moi, avant qu'on tourne dans Luc, Matthieu, chapitre 2, versets 19 à 23, pour conclure cet élément-là de notre série avant d'aller dans Luc 2 aujourd'hui. Matthieu, chapitre 2, versets 19 à 23. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph, en Égypte, et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, pardon, et allait dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Donc, on retrouve cette petite formule-là qu'on a pour la cinquième reprise, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Mais ici, c'est intéressant. Tous les autres, c'était afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ici, c'est ce que les prophètes avaient annoncé. Et là, cette citation-là, il sera appelé Nazaréen. Bien, toutes les autres citations qu'on a vues, des accomplissements, des promesses des prophètes, on peut les retrouver dans l'Ancien Testament. Mais cette phrase-là, mot pour mot, là, il sera appelé Nazaréen. Vous pouvez passer plusieurs heures, années à relire votre Bible pour la chercher, vous ne la trouverez pas. Alors, pour quelle raison est-ce que Matthieu a dit ça? Pour quelle raison est-ce que Matthieu a dit que le fait que Jésus ait habité à Nazareth, ou dans le fond, c'est d'où ses parents étaient originaires, ça allait être l'accomplissement de « il sera appelé Nazaréen ». Des cinq formules d'accomplissement, c'est la plus déconcertante. Justement parce qu'on ne trouve pas ces mots-là dans l'Ancien Testament. Alors, est-ce que Matthieu est en train d'inventer des citations de l'Ancien Testament? Ou est-ce qu'il s'est simplement basé sur une vague impression? Oh, je pense qu'il y a peut-être quelque chose dans l'Ancien Testament qui dit quelque chose là-dessus. Mais on a vu dans les quatre derniers messages que Matthieu était bien trop bon théologien pour même citer quelque chose qui n'avait pas rapport. Les quatre citations qu'on a vues étaient beaucoup plus riches lorsqu'on considère le contexte de l'Ancien Testament duquel cette citation-là est tirée. Alors, Matthieu est trop bon théologien pour inventer des fausses citations ou pour s'être basé simplement sur une vague impression. À quoi fait-il donc référence en disant « il sera appelé Nazaréen » Ça aurait été facile de passer par-dessus, de dire « OK, bon, on a fini, puis on va passer à la prochaine chose », mais les étudiants sérieux que peut-être certains d'entre vous êtes, auraient dit: Ah, mais ça sort d'où, ça, cette citation, il sera appelé Nazaréen. Eh bien, je n'ai pas de réponse définitive pour vous, mais j'ai trois options. Et les interprètes de la Bible nous suggèrent trois options qui peuvent expliquer qu'est-ce que Matthieu voulait dire ici. La première, c'est que Matthieu faisait allusion à un texte dans Ésaïe 11 qu'on a vu il y a 4 semaines. Je vais vous lire. Ésaïe 11, chapitre 1, qui dit: Puis un rameau poussera de la souche d'Ésaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. Donc, de la dynastie de David, dont Ésaïe est le père, l'arbre de cette dynastie-là va avoir été coupé, ils vont avoir été envoyés en exil à Babylone, et il ne va jamais avoir un roi de David qui va revenir pour s'asseoir sur Jérusalem. Mais il y a un jour où il y a un roi de David, de la descendance de David, qui va revenir. Et Ensuite, qui va être rempli de l'Esprit de l'Éternel. Et quelque chose d'assez fascinant, il va être presque surhumain dans sa façon d'exercer le droit et la justice. La façon dont il est rempli de l'Esprit, c'est presque pas possible pour un humain d'être aussi obéissant que ça. Eh bien, c'est parce que ça allait pas être juste un humain. Ça allait être Dieu fait homme. Mais le mot en hébreu qui est utilisé pour rameau, c'est en hébreu netzer. Donc, certains théologiens pensent que netzer, nazaréen, en hébreu, les voyelles peuvent changer énormément, mais les consonnes restent. Donc, et même les voyelles ne sont pas écrites, c'est juste les consonnes qui sont écrites en hébreu classique, si je pourrais dire. Donc, le N puis le T, ce sont les deux sons importants. Donc, netzer, nazaréen. Donc, peut-être que Matthieu, c'est à ça qu'il faisait allusion, que Jésus était ce rameau du tronc d'Isaïe. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est qu'il y aurait une connexion entre Jésus nazaréen et les gens qui faisaient vœu de naziréen dans Nombre 6. Donc, ça, c'était des gens qui faisaient un vœu d'être consacrés à Dieu, d'être séparés. Ils faisaient volontairement un vœu de consécration à l'Éternel pour un certain temps. Ils avaient trois éléments distinctifs. Premièrement, ils ne buvaient aucune boisson alcoolisée, ni même aucun raisin, ni produit du raisin durant le temps de leur vœu. Deuxièmement, ils ne se coupaient pas les cheveux tout le temps que durerait leur vœu. Troisièmement, ils ne devaient pas s'approcher d'une personne morte, ce qui rendait rituellement impur. Alors, on a un seul exemple dans toute la Bible de quelqu'un qui a fait ce vœu-là de Naziréen. Peut-être que ça vous dit quelque chose, surtout l'idée de ne pas se couper les cheveux. Samson, voilà. Donc, Samson, c'est le seul exemple qu'on a dans la Bible. Et Samson a été un très mauvais Naziréen. Donc, il s'est approché du lion qui était mort, ce qu'il n'aurait pas dû, ça allait le rendre impur. Il ne devait pas boire de vin, ni quoi que ce soit de produit de raisin. Sa mère l'a fait dès qu'elle est tombée enceinte de lui. Il y a un ange qui lui a dit, « Tu boiras aucun produit de la vigne, car ton enfant va être consacré, c'est-à-dire ton enfant va être nazir, ton enfant va être consacré pour l'Éternel. » Et bien sûr, le fait qu'il ne devait pas se faire couper les cheveux. Mais, donc, Jésus aurait été, selon le sens de ce mot-là, consacré, séparé pour Dieu, nazir. Et le fait que même comme Samson, ou dès le début de sa conception, sa mère qui était stérile, l'ange lui avait apparu, lui a dit, « Te voici stérile sans enfant, tu deviendras enceinte et tu mettras au monde un fils. » Ça ressemble à quelque chose qu'on connaît, ça. Il dit, « Maintenant, fais bien attention de ne boire ni vin ni liqueur forte et de ne rien manger d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, parce que cet enfant sera nazir pour Dieu. Cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la domination des Philistins. » Donc, notre deuxième option, c'est que le fait d'être nazaréen, Matthieu voyait un lien, un genre de jeu de mots avec naziréen, que Jésus allait être consacré dès le ventre de sa mère pour l'œuvre de Dieu. La troisième option, qui est celle que je pense personnellement qui est la plus probable, mais peut-être que Matthieu avait plus qu'une d'entre elles, peut-être qu'il en avait deux, peut-être même trois, mais je serais surpris. Mais c'est l'idée que le Messie serait méprisé. Et Nazareth était une ville, tout comme Bethléem, une ville qui était méprisable, qui avait vraiment rien de particulier avec Nazareth. Et ça, on le voit clairement au début du ministère de Jésus, lorsqu'il a appelé quelques pécheurs. Il a appelé André, André qui est allé chercher son ami Philippe. Et là, Philippe va rencontrer son ami Nathanaël et lui dit dans Jean 1, 46, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. C'est Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et Nathanaël lui répond, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? » Oh, OK. Alors, les régionalismes et le racisme, ça date pas d'aujourd'hui. On a toujours tendance à mépriser les gens qui viennent d'à côté. Ah, le monde de la banlieue. Ah, le monde du centre-ville. Ah, le monde de la ville. Ah, les gens du nord. Ah, les gens du sud. Ah, Nazareth, est-ce qu'il peut vraiment venir quelque chose de bon de Nazareth? Alors, Jésus allait être... Nazareth était une ville méprisable. Alors, pour Matthieu de dire « il sera appelé Nazaréen » pourrait vouloir dire « il sera méprisable ». Et ça, c'est tout à fait quelque chose que les prophètes avaient annoncé, brièvement, mais clairement. Je vais juste vous lire deux textes. Dans Psaume 22:7, qui est un psaume messianique, David, qui implore Dieu, et c'est un texte qui s'applique extrêmement bien à Jésus, le descendant de David, le nouveau roi. Le texte dit « Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. » Ce texte-là, le psaume 22, est le texte de l'Ancien Testament qui parle le plus clairement de la crucifixion de Jésus. C'est dans ce psaume-là où ça dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils partagent au sort ma tunique. » Et dans ce psaume-là, il y a ce verset 7, où le Messie, celui qui deviendra l'accomplissement de ce psaume 22-là, allait être quelqu'un de méprisé par le peuple. Et pareillement, le texte le plus clair de l'Ancien Testament qui parle de l'Évangile, du fait que Jésus allait devoir souffrir pour nous, Ésaïe 53, dans les versets 2 et 3, parle du serviteur de l'Éternel dans ces termes-ci. Il a grandi devant l'Éternel comme une jeune plante, comme un rejeton, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Et j'ose lire le prochain verset qui ne parle pas d'être méprisé, mais de ce que ce mépris allait apporter. Qui dit « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Alors, est-ce que l'accomplissement de cette promesse des prophètes, il sera nazaréen. Est-ce que ça voulait dire qu'il était le rejeton d'Isaïe, le netzer en hébreu? Est-ce que ça veut dire qu'il était un peu comme un naziréen consacré dès le ventre de sa mère pour l'œuvre du Seigneur? Est-ce que c'est le fait qu'il allait être méprisé, comme les prophètes l'annoncent, du fait qu'il viendrait de Nazareth, un endroit méprisable? Je pense que toutes les options sont possibles. Ce qui est certain, c'est que Matthieu avait quelque chose en tête lorsqu'il a dit ça, probablement une de ces trois options-là. Moi, je pense que c'est probablement l'idée qu'il serait méprisé. Et c'est quelque chose qui était annoncé par les prophètes en général, donc et non pas spécifiquement un seul prophète. Donc Matthieu savait ce qu'il faisait, même si moi, je ne sais pas exactement c'est quoi qu'il voulait dire, mais je tenais à prendre quelques minutes pour vous expliquer cette citation-là, que peut-être que vous n'aurez... En tout cas, moi, je n'aurais pas compris si je ne l'avais pas étudié. Alors, je vous invite maintenant à tourner à la deuxième section de la prédication. Ça va clore notre série sur Noël annoncée par les prophètes. Et je vous invite à ouvrir l'Évangile selon Luc, au chapitre 2. Qui est le jour du premier Noël. J'en ai lu une section tantôt lors du chant de la chorale, mais je vais lire le passage au complet, les versets 1 à 20. À cette époque-là, parut un édit de l'empereur Auguste qui ordonnait le recensement de tout l'Empire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville d'origine. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la famille et de la lignée de David. Il y alla pour se faire inscrire avec sa femme Marie qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes ou dans l'hôtellerie. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Et un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Les bergers furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. » Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, c'est-à-dire à Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Et, tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu. Il disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis, les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors, dans ce superbe texte de Noël, j'aimerais attirer votre attention sur deux renversements qui sont au cœur de l'histoire de Noël et que Luc met en rapport avec les thèmes forts de son évangile. Alors, ce que je vous présente à propos de ces deux renversements-là, c'est largement inspiré d'un article d'un professeur de théologie, Dominique Anger, qui travaille à la faculté de Ovidiu. Il travaillait à l'Institut biblique de Genève, mais il y a un an, il est déménagé à Montréal pour venir enseigner ici. Et c'était publié sur son blog cette semaine ou la semaine passée, dominiqueanger.toutpoursagloire.com. Et ça s'appelait « Noël, c'est l'histoire de deux grands renversements ». Alors, avant d'aller dans les renversements, juste mettre la table un peu. Marie et Joseph habitaient à Nazareth, fort probablement, et Jésus serait né à Nazareth, à moins que quelque chose de spécial arrive et les amène à Bethléem. Et ce qui s'est passé, c'est que l'empereur César Auguste, qui était l'empereur de l'Empire romain, a décrété un recensement. Alors, les recensements étaient utiles pour être capable de mieux taxer les gens. Donc, on savait combien il y avait de gens. Ça nous permettait de savoir combien on imposait au gouverneur de taxes en retour. Et c'était aussi utile pour les obligations militaires. Donc, il y avait un certain pourcentage de la population dans chaque coin qu'on voulait amener dans l'armée. Cependant, les Juifs avaient eu une faveur. Ils étaient exemptés de faire partie de l'armée romaine. Donc, c'était probablement plus pour une question de taxes ici. Ce qui est assez fascinant, c'est qu'avec un seul édit de l'empereur, il va le bouleverser l'Empire entier. Donc, il va forcer tout le monde à changer de ville pour se rendre jusqu'à soit leur ville de naissance ou la ville de leur ancêtre auquel ils sont attitrés. Et Joseph, lui, de la lignée de David, David est né à Bethléem. Donc, il prend Marie qui, ça dit encore qu'il était sa fiancée. Donc, comme ça dit dans Matthieu, ils n'avaient pas eu de relation encore ensemble, mais Joseph l'avait pris pour son épouse, mais tant que le mariage n'était pas consommé, probablement que Luc continuait à dire qu'ils étaient fiancés. Et ils se rendent jusqu'à Bethléem. Et c'est intéressant que même si l'empereur, avec un édit, a bouleversé tout l'empire, on voit la souveraineté de Dieu qui était à l'œuvre, qui allait amener son Messie et sa mère jusqu'à Bethléem pour qu'il naisse à Bethléem, selon ce que Dieu avait annoncé par la bouche du prophète Michée, comme on l'a vu il y a 2 semaines, je crois, ou il y a 3 semaines. Alors, on peut s'imaginer un peu être dans la peau de Marie et Joseph. Marie qui devait être bien enceinte. Si c'est quand elle était là-bas qu'elle a dû accoucher, ils ont dû faire le voyage. Marie était bien enceinte. Est-ce que c'était une partie de... est-ce qu'elle en a marché? On parle de au-dessus de 100 km, entre 110 ou 150 km. Les commentaires, on disait différemment, mais plus d'une centaine de kilomètres. Alors, si on marche pas très vite, et si on est enceinte, on marche certainement pas très vite. Alors, combien de kilomètres à l'heure est-ce qu'il pouvait faire? Peut-être 3. S'il marchait 5 heures par jour parce qu'il faut dormir, bon, on fait 15 kilomètres en une journée. Bon, ça a dû prendre plus qu'une semaine de marche à se rendre jusqu'à Bethléem. Est-ce que c'était à marche? Est-ce qu'il y avait un âne sur lequel Marie a pu s'asseoir? Possiblement, le texte ne le dit pas. Alors, il y a tout un folklore autour du fameux âne. Ou peut-être que c'était une charrette. Il y a un beau film pour les enfants qui est sorti au cinéma dans le temps de Noël. Ça s'appelle L'étoile de Noël. Puis c'est l'histoire de l'âne qui s'appelle Boaz. Il se fait surnommer Beau, qui va se ramasser à être l'âne qui va transporter Marie jusqu'à Bethléem. Donc c'est une belle histoire pour enfants, avec le message de Noël qui est là aussi. Et Lisanne et moi, on a eu l'occasion d'aller le voir avec Nathanaël il y a quelques semaines. Puis c'est un beau petit film pour enfants. Le 3/4 de l'histoire s'est rajouté. C'est toutes sortes d'aventures qui arrivent à l'âne et à ses autres amis animaux. Mais on aboutit à la naissance de Jésus et à quelque chose de spécial. Je ne sais pas si vous avez affaire de la grande route des fois, mais à faire plusieurs heures d'auto consécutives, déjà on peut trouver ça difficile. Mais imaginez de voir les marchés, toutes ces heures-là, et plusieurs jours consécutifs, ou sur la charrette, ou sur le dos d'un âne, ça ne devait pas être de tout confort. Mais Marie, elle s'en va accoucher loin de sa famille, comme un vidéo nous disait la semaine passée, loin de sa mère, loin de ses sœurs, est-ce qu'elle en avait, on ne sait pas, ses tantes, est-ce qu'elle en avait, on ne sait pas. Elle va possiblement dans la famille de Joseph. Et c'est là qu'elle va accoucher. C'est là qu'elle va mettre au monde le Sauveur. Et quelques temps après, ils vont devoir s'enfuir en Égypte. Est-ce qu'ils avaient de la famille en Égypte? On ne sait pas. Mais ça n'a pas été une partie de plaisir pour eux. Des fois, on romance un peu l'histoire de Noël. Il neigeait, il faisait beau. Marie, elle a presque flotté sur le dos de l'âne jusqu'à Bethléem. Et l'accouchement a dû se faire tout seul. Ah, probablement pas. Mais au cœur, là où je voulais venir maintenant, c'est qu'au cœur de cette histoire-là, on a 2 renversements. Le premier, c'est un renversement vers le bas, et le deuxième, un renversement vers le haut. Je vais expliquer ce que je veux dire. Tout d'abord, le renversement vers le bas, c'est le fait que l'héritier du trône de David est couché dans une mangeoire pour animaux. On le voit au verset 7 que lorsque Jésus est né, Marie l'a enveloppé de l'ange, l'a couché dans une mangeoire, dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. Est-ce que c'était l'hôtellerie? Les traducteurs d'aujourd'hui estiment que peut-être qu'il n'y avait pas d'auberge. Bethléem, c'est un petit village. Peut-être que c'est juste que la famille, ils avaient une salle pour les invités. Puis là, avec tout le monde qui était là, il n'y avait même pas de place pour eux dans la salle des autres. Elle a peut-être dû accoucher dans le salon ou quelque part où il y avait des animaux aussi. Donc, pas des super belles conditions pour accoucher. Mais elle l'a enveloppé, elle l'a mis dans la mangeoire animaux. J'essayais de faire la comparaison, pour moi qui n'ai jamais grandi sur une ferme, ce serait comme un gros bol de bouffe à chien, puis mettre le bébé dans le bol de nourriture à chien. Bon, c'est pas la même chose. La paille, au moins, ça offre un certain confort si le bébé n'a pas des brindilles dans le visage. Mais celui-là, ce bébé-là, c'était l'héritier du trône de David. Comme dans les chapitres auparavant, l'ange Gabriel avait annoncé à Marie à propos de son fils en disant « Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Ça, c'est rien de moins que la promesse que Dieu avait faite au roi David qui va s'accomplir bientôt dans la personne de Jésus. Et Luc répète que Jésus est bel et bien descendant de David. Joseph et Marie se rendent dans la ville de David parce qu'il est de la famille et de la lignée de David. Jésus, ainsi rattaché à la lignée de David par son père, naît donc dans cette ville de David, encore au verset 11. Et dans Luc 2:11, lorsque l'ange s'adresse au berger, il dit « Dans la ville de David, il vous est né. » Et là, il donne trois titres à ce petit bébé-là. Le Sauveur, qui est le Messie ou le Christ, le Seigneur. Sauveur, Christ et Seigneur. On a encore plus qu'un roi, là. Et comme l'ensemble du Nouveau Testament nous le révèle, on a Dieu fait homme, celui qui était éternellement Dieu, qui s'est fait chair pour venir habiter parmi nous. Dieu est couché dans une mangeoire pour animaux. Quel renversement des choses! Quelle humilité de Dieu de naître parmi les pauvres, parmi les simples, parmi les humbles. Lui qui est l'héritier ultime du trône de David, celui qui n'aura jamais de successeur parce qu'il règnera pour toujours, il naît et est couché dans une mangeoire. Le plus grand roi de l'histoire naît dans la plus grande simplicité. Jésus est l'héritier du glorieux trône de David, mais seule une mangeoire est libre pour l'accueillir dans la ville de David. Quel renversement! Que le Dieu très saint s'humilie à ce point-là. Le deuxième renversement, c'est que la naissance de Jésus est annoncée comme une bonne nouvelle à de simples bergers. On a vu il y a quelques semaines qu'il y a des mages qui ont été appelés, des mages qui étaient des païens, ils étaient des non-juifs, ils étaient des non-circoncis, et c'est eux qui sont venus adorer Jésus. Et là, ici, on a des bergers, des gens qui étaient très simples, des gens qui n'avaient pas beaucoup d'éducation. On ne parle pas des scribes ou des pharisiens ou les gens de la cour d'Hérode qui viennent accueillir la naissance du nouveau-né. Non, au contraire, Hérode va vouloir le faire tuer. Et lorsque les mages sont allés à Bethléem, lorsque les mages se sont rendus à Jérusalem pour dire « Où il est le roi des Juifs qui vient de naître? » On a vu son étoile en Orient. Et là, Hérode fait venir les scribes où doit naître le Messie. Ça dit que toute la ville est bouleversée. Mais il n'y a pas une personne de Jérusalem, des scribes, qui ont donné la réponse avec raison à Hérode. « Ah oui, le Messie doit naître à Bethléem selon la prophétie du prophète Michée. Bon, » Et puis les mages, ils disent qu'ils ont vu son étoile. « OK, c'est bon. » Zéro empressement pour aller voir si peut-être le Messie ne serait pas né. Alors, les gens qui ont même les bonnes réponses, puis nous tous, peut-être qu'on a les bonnes réponses aux questions de la foi, mais est-ce qu'on vient adorer? Est-ce qu'on vient adorer avec notre cœur? Est-ce qu'on vient s'humilier avec celui qui s'est humilié pour nous? Alors, Dieu envoie des anges pour annoncer à de simples bergers cette bonne nouvelle qu'un sauveur leur est né. Les bergers étaient souvent méprisés à cause de leur style de vie nomade et leur réputation de voleurs. Et même leur témoignage devant une cour de justice n'était pas valable parce qu'ils avaient tellement mauvaise réputation d'être des voleurs et des menteurs. Mais c'est à des gens qui ont une telle réputation que Dieu apparaît pour faire d'eux les premiers témoins de la venue de son Messie. Les bergers étaient des gens simples et pauvres, ce qui rejoint un autre thème important de l'Évangile selon Luc, que Dieu abaisse les puissants et élève les humbles. C'est quelque chose d'ailleurs que, je crois que c'est Marie dans le chant rempli de l'Esprit, elle mentionne cela dans Luc 1, dans les versets 40 à 55 à peu près, que Dieu abaisse les puissants et élève les humbles. Et c'est précisément ça que Dieu est en train de faire. Il élève de simples bergers pour venir être les représentants de tout Israël qui vont voir le Sauveur nouveau-né. Et les puissants, Hérode, qui va chercher à éliminer Jésus, bien, il va finir par mourir lui aussi. Tandis que Jésus, lui, allait régner éternellement. Dans les chapitres qui vont suivre dans l'Évangile selon Luc, on va voir Dieu qui va choisir d'autres pauvres, des malades, des aveugles, des boiteux, des collecteurs de taxes, des pécheurs. Pour quelle raison? Parce que ce sont souvent de telles personnes qui parviennent le plus facilement à reconnaître leurs besoins de salut et qui laissent volontairement Christ régner sur elles. Souvent, c'est lorsque nous sommes dans la détresse, lorsque nous ressentons notre petitesse, notre faiblesse, que nous sommes ouverts à recevoir l'aide et en particulier le pardon que Dieu nous propose. Dans le royaume de Dieu, oui, ceux qui sont prêts à s'humilier font l'expérience d'un renversement de statut vers le haut. De manière implicite, les bergers représentent un exemple pour nous. Ils nous montrent la voie de l'humilité. Toi, aujourd'hui, dans ta vie, est-ce que tu te sens méprisé, mis de côté? Peut-être que tu as mauvaise réputation auprès de certains à tort ou à raison. Es-tu mis de côté parfois même dans l'Église? Es-tu pauvre, démuni, délaissé, rejeté? Eh bien, c'est à de telles personnes que Dieu est venu s'adresser en premier pour venir être témoin de la naissance de Jésus. Et il t'invite aujourd'hui à être témoin de cette naissance de notre Sauveur. Est-ce que tu reconnais ta faiblesse et ta pauvreté spirituelle? Est-ce qu'on n'aurait pas aimé être parmi les bergers pour entendre ce chant des anges, où une foule d'anges de l'armée céleste qui se sont rassemblés, qui ont chanté le plus beau Gloria in excelsis Deo que vous avez jamais entendu, ou quand ils ont chanté gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix aux hommes. Attendez un petit peu. Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Dieu nous invite à lui livrer les clés de nos cœurs, à lui céder le commandement de notre destinée, à renoncer à nous-mêmes pour le suivre. Si tu ne te considères peut-être pas comme quelqu'un de pauvre ou quelqu'un de méprisé ou de délaissé, à l'inverse, es-tu fier de ta vie en ce moment? Sens-tu que tu n'as pas besoin de Dieu en ce moment? Eh bien, Dieu, implicitement dans ce texte et dans l'Évangile de Luc, nous avertit qu'il vient pour sauver seulement celui ou celle qui reconnaît sa faiblesse spirituelle et qu'il n'y aura pas de salut pour les autosuffisants. Au contraire, que ce sera l'abaissement qui sera leur destinée. Jésus, le Dieu fait homme, couché dans une mangeoire, symbole d'humiliation qui était probablement une préfiguration de l'humiliation suprême qu'il allait subir, celle d'être cloué, probablement nu, à une croix, quelques 30 ans après cela, raillé, méprisé par les chefs religieux, ceux qui auraient dû être les premiers à l'accueillir, que tous ses disciples l'ont abandonné, et Jésus a porté sur la croix le poids de nos péchés, la condamnation de Dieu à notre place que nous méritions. Il ne peut pas y avoir d'autosuffisant dans le royaume de Dieu. Nous devons plier le genou devant Jésus dans la crèche, Jésus qui a été crucifié et le Jésus qui est ressuscité, glorieux. Celui qui est remonté au ciel et qui siège éternellement comme le descendant parfait de David. Le meilleur roi. Dans le fond, David n'était qu'une infime parcelle de ce que Jésus allait être. Jésus qui est venu être notre grand sauveur. Alors, en conclusion, à l'instar des bergers, de la même façon que les bergers, venons contempler aujourd'hui et demain, dans des moments tranquilles, ce roi nouveau-né. Venons être émerveillés devant l'humilité de Dieu, qu'il vienne parmi nous comme le roi divin dans la crèche. Deuxièmement, faisons comme les bergers, allons raconter ce que nous avons vu et entendu, partageons les merveilles de ce que le Seigneur a fait, de comment il a éclairé nos yeux. Et troisièmement, au dernier verset de notre passage, ça dit que les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Troisièmement, donc, remémorons-nous en chantant, comme dans ce prochain cantique, et si vous avez l'occasion dans les prochains jours aussi de chanter des chants de Noël, de vous remémorer les merveilles de la crèche et de la croix, où notre Sauveur s'est humilié pour nous, en naissant de façon humble, en mourant de façon humble, pour que ceux qui reconnaissent qu'ils sont humbles spirituellement puissent être élevés éternellement dans sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Joyeux Noël.